A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
Bon, on va Réu.
On est d'accord que Midi les Zouzous, c'était la meilleure émission jeunesse de toute la télévision ever.
Alors moi, je suis trop vieille pour Midi les Zouzous, moi j'étais avec les Minicum et c'était sûrement les Animaniacs.
Moi je suis trop à la frontière belge pour les Midi les Zouzous, je regardais Blabla, les vrais savants.
Blabla ?
Blabla, tout à fait.
Qu'est-ce ?
Bah va voir sur internet, c'est un bonhomme genre marionnette qui ressemble beaucoup à un fillon, clairement.
C'était pour les enfants, ça?
Bah non, mais en fait c'était un peu comme les émissions pour jeunesse, ils présentaient les dessins animés dans un genre de décor, un peu genre Muppet Show pour gosses, tu vois. Et mais il y avait un bonhomme qui lisait des histoires et à la fin, il y avait à la fin de chaque émission, et ça m'a marqué, il y avait une chanson, c'était toujours la même, ça s'appelait le cache-cache pub, et le concept c'était de dire aux gosses de fermer les yeux devant les pubs qu'il allait avoir après, parce que c'était à la télé quoi. Et c'est génial.
D'accord, ok, bah je connaissais pas du tout.
Ok.
Que c'est pas du tout. Ah non, Midi les Zouzous, c'était trop bien. Je suis d'accord avec toi. Tu regardais quoi sur Midi les Zouzous?
Je regardais
Maya l'abeille.
Oui, un peu Maya l'abeille. Je regardais Les Malheurs de Sophie. Je sais pas, je regardais Yakari, Princesse Sarah, des trucs comme ça.
D'accord, ok. Ah bah moi, je pense que c'était mon moment. De toute façon, j'ai jamais trop regardé les dessins animés, etc. Mais par contre, mon moment du midi, c'était Olive et Tom.
À l'époque, il regardait déjà du Scorsese en boucle.
Évidemment.
Et Olive et Tom.
Exactement. Olive et Tom, c'était le petit péché mignon à côté de Bergman et Tarkovsky, histoire d'eux. Mais ouais, Olive et Tom, quoi.
Olive et Tom, moi, j'ai regardé peut-être quelques extraits en allant parfois chez des amis, mais je regardais pas du tout chez moi, mais ça me paraissait interminable, ces remontées de terrain, version avec ça, tous les traits, là.
Ça, c'était, ouais. C'était le plus dur à vivre quand t'étais enfant, parce que globalement... Tu regardais et puis tu savais que tu devais retourner à l'école après, tu vois, c'était le temps du midi, quoi. Et puis le match, il durait longtemps, tu te disais, allez, vas-y, je veux savoir la fin. Et puis la fin, elle arrivait jamais, voilà.
Et tu retournais à l'école sans avoir la fin?
Oui, parce que l'épisode, souvent, il se terminait en mode, il tire et puis, est-ce qu'il va l'arrêter? Est-ce qu'il va pas l'arrêter? Est-ce qu'il va le mettre? Et t'étais en mode, je saurai demain. Et le lendemain, il passait pas forcément la suite.
Oh, t'étais en mode,
bon, une prochaine fois, du coup.
Bah, du coup, c'est quand même... avantageux que vous connaissiez aussi bien Olive et Tom, vu que vous êtes vieux, parce que je me suis dit qu'on pourrait faire quelque chose sur Shaolin Soccer. Vous vous rappelez le super film de Stephen Chow, sorti en 2001, et qui est pour beaucoup justement une adaptation de Olive et Tom, a.k.a. Captain Tsubasa en VO, pour des raisons évidentes, hein, parce que c'est un film de foot totalement improbable, où les matchs durent finalement moins longtemps. Oui. Mais les coups sont à peu près aussi lunaires.
Non, puis pour le coup, le fait de reprendre Captain Tsubasa, enfin Olive et Tom, et de marier ça au Kung Fu, c'était clairement l'idée de Stephen Chow avec Shaolin Soccer. C'était une source d'inspiration clairement assumée.
Oui, c'était l'idée quand il a préparé un peu les scènes d'action, entre guillemets, donc de match. Même si à la base, le but c'était... Enfin, juste lui, il voulait faire un film de Kung Fu, faire une comédie de Kung Fu. Et vu qu'il y en avait beaucoup, il cherchait un twist... entre guillemets, et vu qu'il regardait pas mal de foot aussi, paraît-il, il s'est dit qu'il allait mettre du foot dans la mixture kung-fu, et ça donne ce film. Faisons un petit tour de table, du coup, avant d'attaquer dans le dur. Déborah,
oui.
Est-ce que tu aimes Shaolin Soccer?
Bah évidemment. Moi, l'humour bien absurde comme ça, style un peu genre Les Nuls, La Cité de la Peur, ça c'est des films que j'aime bien. Et pour le coup, on retrouve tous ces codes de la comédie absurde dans Shaolin Soccer. Et en plus, c'est trop bien mis en scène. Ça reprend les codes de l'animation japonaise, donc c'est un peu genre le truc parfait pour que j'apprécie.
Moi, alors, pour le coup, j'ai beaucoup plus de mal. Je trouve le film amusant par plein d'endroits et je trouve qu'il tente des choses hyper sympas et qu'il est intéressant sous plein d'aspects, mais globalement, c'est un objet qui est visuellement un peu trop laid pour moi, un peu trop what the fuck, vraiment, avec quelque chose de mal équilibré que je trouve long, que je trouve lourdingue. Donc, je peux commencer en vous écoutant parler à commencer à voir l'intérêt, mais moi, j'avoue que j'arrive pas à être touchée par ce genre de cinéma.
Oui, bah, moi je vais du côté de Judith du coup aujourd'hui, parce que bah, moi non plus, je pense que je suis encore plus sévère que Judith, j'aime pas Shaolin Soccer du tout. En fait, c'est marrant qu'on parte du prisme Olivier Tom pour parler de Shaolin Soccer, parce que ce que j'aimais bien dans Olivier Tom, je le retrouve pas vraiment dans Shaolin Soccer, dans le sens où Olivier Tom était quand même, on va dire, assez sérieux. Ça se prenait peut-être un peu trop au sérieux pour un dessin animé pour enfants, même si c'est pas exclusivement pour les enfants, mais plutôt quand même destiné à un public jeune. Alors que Shaolin Soccer, bah, entre les blagues lourdes et la trajectoire hyper attendue du film, je m'en contrefous total des personnages et du tout le reste des matchs, etc. Alors oui, il y a de la mise en scène, c'est sûr. C'est ça qui est intéressant, on va dire, de jouer avec le kung-fu dans le foot, et d'avoir des vrais gestes un peu drôles dans les transmissions de balles, les passes, etc. On va pas parler technique, évidemment. On va pas parler tactique.
C'est pour ça qu'on t'a invité, d'ailleurs, hein, parce qu'on sait que t'aimes pas le film, mais vu que t'es la seule personne ici à t'y connaître à peu près en foot, voilà.
Alors, c'est vrai que autant sur le niveau tactique que sur le niveau technique, c'est vrai que je trouve que Stéphane Chou fait plutôt un bon match. Après, c'est vrai que... Non, mais en vrai, pour revenir sur Shaolin Soccer, moi, c'est ça qui me dérange vraiment, c'est l'incapacité qu'a le film à, je trouve, se trouver un ton, d'une certaine manière. Il est en permanence en train de jongler entre l'humour, le sérieux, la romance, puis d'un coup, on va faire autre chose. Enfin, je comprends pas trop tout ça, moi. Ça vous plaît, vous ?
Bah, personnellement, ouais, parce que là où... Toi, tu vois peut-être que genre un amas de blagues qui, du coup, se parasitent toutes les unes entre les autres. Moi, je vois quand même un sous-texte qui, oui, est assez naïf et candide et qui te dit clairement à peu près tout ce que peuvent te dire les films de sport, donc de toute façon c'est une parodie, c'est-à-dire que l'union fait la force et l'important c'est pas de gagner et blablabla blablabla.
Si tu as confiance en toi, tu n'auras plus de boutons.
Ouais, voilà, donc il y a quelque chose d'assez candide mais que je trouve quand même assez touchant, parce qu'au final il y a quand même un sous-texte qui est bien présent et qui ressort, que ce soit sur les personnages qui sont marginaux, sur la pauvreté, tout le sous-texte social. Je trouve pas forcément que ce soit juste un film qui est là pour se foutre de la gueule de ces personnages. On sent que Stephen Chow, il aime tous ces personnages et oui, on est amené à s'en moquer un petit peu, mais toujours à avoir de l'empathie derrière pour eux, et c'est ce que je trouve intéressant.
Mais alors, ça correspondait à quoi, le sous-texte social à l'époque pour le cinéma hongkongais?
Alors, bon, bah, comme beaucoup de films qui sont sortis dans cette année-là, on fait souvent le parallèle, évidemment, avec la rétrocession, qui est vraiment un peu une sorte de couperet pour le cinéma hongkongais de l'époque, hein, oui, parce que bon, pour préciser de façon plus globale, le cinéma hongkongais, cinéma extrêmement riche à une certaine période, à l'époque où il est sous protectorat anglais. Et déjà, bon, dans les années 90, c'est déjà la fin d'une grande époque, mais aussi parce que, justement, il y a ce couperet de 97, donc, qui est la date de la rétrocession, et où on sait que ça sera plus la même chose, et ça n'a pas été la même chose. Et donc, paradoxalement, ça a fait que ces films-là, qui étaient déjà bien burnés, sont vachement montés en puissance. On a fait un super dossier sur la catégorie 3, qui était... type de cinéma hyper trashos où ils s'interdisaient rien.
C'est le moment où tu regardais des films super chelous à côté de moi avec des madames à moitié à poil qui se faisaient torturer.
Oui, c'est ça. Oui.
Ouais, voilà, ouais. Mauvais moment.
Voilà.
Ça ressemble à la catégorie 3, effectivement.
Mauvais souvenir. Je devais pas être là à ce moment précis pendant que tu regardais tout ça.
Je sais plus c'est lequel qui t'a particulièrement marqué. Je me demande si c'était pas un des Sex and Zen, peut-être le 3 ou le 4, je sais plus, bref.
Je sais pas, mais moi je me rappelle qu'à ce moment-là j'étais en train d'écrire sur un film d'animation et que je me rematais le film d'animation pendant que toi tu regardais des madames en train de se faire torturer, et le contraste était assez saisissant entre nos deux ordi.
Enfin bref, voilà, en tout cas dans la catégorie 3, il y a un côté un peu grosse fête du slip avant l'extinction des feux qui est cette date fatidique. Après, bon, beaucoup de gens disent que le déclin de l'industrie hongkongaise en qualité notamment et en quantité aussi d'ailleurs, vient de la rétrocession, mais c'est un mélange de plein de trucs, l'essor du piratage, évidemment l'ouverture de la péninsule à la mondialisation a introduit le cinéma hollywoodien, les multiplexes qui ont remplacé les salles de quartier, enfin, c'est un phénomène qu'on a observé à plein d'autres endroits, hein, de toute manière. Et du coup, il y a quand même pas mal de cinéastes cinéastes qui ont fait de leurs films soit des témoins directs ou indirects, on va dire, de la chose. Je pense à Infernal Affairs, qui est ressorti en salle d'ailleurs il n'y a pas longtemps, qui se passe littéralement avec ça en arrière-plan. Bon, ouais, c'est assez amusant d'ailleurs, parce que le film est assez politique, on peut le dire, hein, ça parle quand même de corruption, etc. Et j'avais interviewé son réal pour la ressortie, Andy Lau, qui depuis, en fait, est devenu complètement... il fait des trucs de propagande, tu vois, genre Chinese Doctor qui vante les Chinois pendant la crise du Covid, c'était hyper héroïque, etc. Et qui te dit « Oh non, mais nous, vous savez, on voulait pas faire des trucs politiques. » Enfin, il a du mal à aller sur ce terrain-là. Et Stephen Chow aussi, d'ailleurs, maintenant, il fait des gros blockbusters et je pense qu'il aurait bien du mal à avouer que Shaolin Soccer était un peu piquant, on va dire, là-dessus. Parce que oui, du coup, il y a une volonté de mettre en scène une population hongkongaise qui représente un peu tous les... Enfin, les frères qu'on voit, qui sont donc les joueurs qui sont recrutés dans l'équipe de foot de Shaolin, ils représentent un peu des visions un peu clichés, bien sûr, de la population, ou du moins du cinéma hongkongais à ce moment-là. C'est-à-dire, soit t'es dans le système, t'es comme le mec qui a sa montre et qui a son ordi sur son scooter et qui barre, soit t'es pauvre, hein, parce qu'il y a quand même des personnages qui vivent très littéralement dans des genres de bidonvilles, hein, clairement. Évidemment, Shaolin, c'est le Wu Xiapian, ça fait référence aux grandes heures du cinéma hongkongais, bien du terroir, quoi. Et c'est grâce à ça qu'ils vont... reprendre le contrôle. Enfin, il y a une forme de réassurance nationale par rapport à ça, jusqu'à la fin où tout le monde dans la ville utilise le Shaolin. Voilà.
C'est vrai que quand tu regardes dans le film, il y a pas mal de symboles occidentaux ou en tout cas américains qui sont diabolisés. Rien que genre les villes team, les joueurs adverses qui sont dopés avec un médicament américain et on te décrit juste le truc comme le médicament américain magique qui dope les joueurs. T'as le personnage qui... comment il s'appelle celui qui est surnommé Le Gros, mais que j'ai pas du tout envie d'appeler Le Gros.
Il s'appelle Vent Léger sur l'eau.
Voilà, le personnage de Vent Léger sur l'eau, qui travaille à Carrefour. Genre, à chaque fois, le film te fait des gros plans sur l'enseigne. Et en gros, tout ça, c'est toutes ces valeurs occidentales qui sont un petit peu diabolisées dans le film, comme avec tous les sponsors dans le magasin de chaussures qui sont là.
Le plus gros sponsor de l'histoire de Puma. Hein.
Oui, voilà.
Donc, qui a littéralement une scène même de football, hein, puisque... le ballon se transforme en Puma. Hein. Donc,
c'est vrai.
On est à ce stade de
je crois le plus lunaire avec le placement de produit, c'est le moment où il y a un genre de montage, tu sais, bon, très classique aussi du film de sport, où ils peuvent se débarrasser de leurs chaussures pourries et ils sautent sur un mur de Puma.
Mais oui, c'est ça.
On dirait vraiment le magasin.
Et t'as tous
quoi.
Les sponsors qui sont devant, genre oui, bienvenue, et eux qui dégagent tous les sponsors en mode non, mais vous nous intéressez pas.
Oui, c'est vrai.
Donc c'est vrai qu'il y a vraiment cette idée des techniques de moines Shaolin, donc les techniques traditionnelles et ancestrales, qui viennent un petit peu contrecarrer tout ce nouveau monde, entre guillemets, cette occidentalisation, même si on n'est pas, pour moi, sur un vrai rapport de force, mais plutôt sur une cohésion, puisqu'à la fin, on voit justement tous les personnages qui continuent de vivre leur vie d'occidentaux, mais qui utilisent des techniques de moines Shaolin dans la vie de tous les jours, du style garer sa voiture ou rebondir après avoir marché sur une peau de banane. Donc, c'est peut-être un peu piquant, mais même là, je trouve que ça reste quand même assez candide dans le message qui est que voilà, il faut se réconcilier, il faut embrasser les nouvelles technologies, mais ne pas oublier nos techniques ancestrales. C'est pour ça, je le trouve quand même assez touchant dans le fond.
Moi, je trouve que c'est en effet, c'est marrant ce que tu dis, que ça soit en effet candide au bout d'un moment, parce qu'en fait, oui, c'est vraiment que candide pour moi. C'est un peu le problème, il y a ce petit sous-texte sur... on va dire la pauvreté à Hong Kong à cette période-là et sur toute une, on va dire, une sorte de lutte des classes d'une certaine manière entre personnages et notamment le grand méchant qui est tel. Enfin, en fait, les enjeux sont tellement binaires que tout est très très simplifié à mon humble avis. Le grand méchant est un grand méchant et les gentils sont vraiment des très gentils, il faut les aider, quoi.
Ça t'a pas fait rire la scène où t'as le joueur de foot qui s'entraîne au fond de la piscine avec le ballon en métal?
Non, parce qu'en fait...
qui fait exploser la piscine.
On est un peu dans Rocky IV avec l'entraînement d'Ivan Drago.
En fait, tu vois, c'est un peu ça qui me gêne justement dans le film, c'est qu'en fait, déjà, il y a assez peu d'enjeux puisque l'antagoniste est quasiment inexistant. Il est là, on nous l'a montré au début parce qu'il y a un petit flashback, etc. Et après, on nous dit que voilà, c'est le grand méchant et qu'il va falloir le battre pour éviter qu'il gagne une nouvelle fois la coupe en dopant ses joueurs. Après, on le revoit plus pendant une heure. Voilà, il est pas là. Et puis d'un coup, on nous montre ça. Mais en fait, du coup, même lui en tant que méchant, il est décrit de manière cartoonesque. Donc, c'est-à-dire, c'est quand même hyper cartoonesque que ces mecs se battent, apprennent à jouer au ballon ou à utiliser leur drogue, là, dans l'eau, sous l'eau même, en plongeur, quoi. Et du coup, je me dis, bon, ok, d'accord, le méchant est vraiment très, très méchant. Dis donc, merci de me l'avoir réexpliqué encore une fois. Et du coup, quand nos joueurs à nous arrivent, on va dire, parce qu'on soutient quand même les héros, quoi, je n'ai pas de crainte pour eux parce que le film est très attendu à ce niveau, quoi.
Après, je trouve qu'avec ce personnage de méchant, en vrai, je suis d'accord avec toi, oui, c'est la caricature et il véhicule pas grand-chose d'autre, sauf à un moment, et c'est le moment où il rencontre toute l'équipe des Shaolin Soccer et où il dit à l'un d'entre eux « Oui, ma chaussure est sale », en gros, pour être dans une logique d'humiliation, comme c'est la logique des personnages dominants sur tout le film. Et là, il va être confronté déjà à la gentillesse de tous les autres personnages qui se ruent pour en fait lui retirer sa chaussure et lui nettoyer. Donc déjà, sa méchanceté, sa volonté d'humiliation, elle est complètement déjouée par ça. Et ce petit détail que je trouve vraiment intéressant, qui est que quand on lui retire sa chaussure, on voit qu'il a un panari et une chaussette trouée. Donc oui, peut-être que c'est grave de l'extrapolation de dire qu'au final, c'est parce que voilà, il y a eu l'ascension sociale, mais tout ça, c'est que de la façade, que cette richesse, c'est que de la para, et qu'au final, il reste ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un personnage d'une classe populaire qui s'est donné des grands airs justement parce qu'il voulait en sortir et qu'il voulait sortir de cette logique d'humiliation. Alors là, c'est peut-être moi qui vois très 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 loin, mais j'ai vraiment pas l'impression que ce détail de la chaussette trouée et du panari sur l'ongle, ce soit juste un détail.
Oui, parce qu'il y a vraiment un plan qui est consacré à ça, pour le coup, je pense que t'as raison, mais ce que dit Alex sur le côté cartoonesque, pour le coup, autant moi dans l'écriture des personnages, ça me dérange pas tant que ça, par contre ça me dérange vraiment en termes d'effets visuels, pour le coup, où je sais qu'il y a une volonté du film, enfin en tout cas c'est ce qui me semble, évidemment de faire du too much, de dire bon bah allez, Balek, ça rend pas très bien, on fait des CGI un peu pétés, mais ça va avec tout ça, moi j'ai du mal à acheter le côté bon bah on s'en fiche et on y va, parce que je trouve ça quand même assez laid et que j'ai du mal du coup à croire à ce que je vois et que je trouve que ça vieillit, enfin ça sent vraiment le ringard, quoi. Moi j'ai vraiment une barrière visuelle avec le film.
Ouais, je vois très bien. De toute façon, les effets spéciaux, c'est un peu là où le bas blesse, entre autres. Mais, parce que oui, évidemment que c'est assumé. Évidemment que Stephen Chow, quand il fait un film comme ça en 2001, alors que même Hollywood a du mal à se débattre avec ses effets, il se doute bien que justement, il faut tout miser sur le côté cartoon et pas du tout essayer d'en faire un truc réaliste. D'ailleurs, il va pousser ça encore plus loin dans le film d'après, Crazy Kung Fu, qui est peut-être son film le plus célèbre en Occident, où il y a des scènes, c'est du genre du Benny Hill complètement délirant, où il se court après. Et vraiment, là, pour le coup, tu vois, il aurait eu l'occasion de le faire de manière plus techniquement propre, quoi. Mais il décide d'aller dans le cartoonesque volontairement parce que c'est... Voilà, c'est sa marque de fabrique. Et d'ailleurs, il y avait une interview quand le Shaolin Soccer est sorti avec un journaliste français, je crois, qui le compare à Jackie Chan, parce que bon, voilà, les Occidentaux, comédie plus HK égale Stephen Chow ou Jackie Chan, c'est comme s'il y avait qu'eux. Et lui, il dit, mais en fait, j'ai rien à voir avec Jackie Chan, et pour la simple et bonne raison que c'est tout l'inverse. Jackie Chan, il se repose sur les cascades physiques, c'est vraiment c'est du Buster Keaton, quoi. C'est vraiment, de toute façon, c'est une influence revendiquée. Alors que lui, il s'appuie beaucoup plus sur les effets numériques, justement. Il en fait un ressort comique. C'est vraiment quelque chose sur lequel il s'appuie. Et même avant Shaolin Soccer, qui est un peu quand même un truc voué à irradier à l'international, même avant ça, sur ses précédents films, il y allait déjà là-dedans, quoi. Quitte à avoir des effets pas très réussis parfois, mais c'est tout à fait assumé, ouais.
Mais moi, pour revenir sur le truc côté cartoonesque, en fait, ça me dérangerait pas tant qu'il reste sur ce côté cartoonesque s'il allait vraiment au bout de ses idées régulièrement. C'est ça qui, pour moi, est un peu aussi un problème, c'est que j'ai l'impression, quand je regarde Shaolin Soccer, de pas comprendre exactement ce qu'il veut faire régulièrement. Et il y a une scène en particulier qui... En fait, c'est pas vraiment forcément cette scène, mais c'est la scène où tout de suite on se dit « Ok, ça va être ce délire » et je suis pas sûr d'accrocher à ça, en fait. C'est la scène où il rencontre où le héros, donc notre bon... Enfin, le mec que joue Stephen Chow, quoi.
Joueur 1.
Voilà, joueur numéro 1. donc, on va dire le héros, hein, parce que c'est quand même un peu le héros. Et quand il rencontre donc la jeune pâtissière qui s'appelle May, donc là, il y a une sorte de romance. Bon, là, il intervient de manière absurde. Bon, pourquoi pas, ça peut être... Il est un peu mal à l'aise, il sait peut-être pas parler aux femmes. Bon, pas de souci.
Il s'est crié aux femmes.
Voilà, il s'est crié, genre crié et chanté des chansons improvisées. Voilà, donc là, il arrive et puis d'un coup... Bon, elle est en train de faire sa pâtisserie en tai chi. Bon, pourquoi pas, c'est marrant, bon, on est dans le délire. Mais après, il y a ce gars qui débarque, et qui fait moi aussi j'aime bien chanter lol, oh là là, moi aussi j'aurais aimé devenir chanteur, la 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 la. Et puis d'un coup il a une flamme dans les yeux de l'autre gars en face qui dit moi aussi je voulais devenir danseur étoile. Là, tu fais, il commence à danser tin, 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 tin. Et tu fais mais qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire
mais c'est génial,
où sommes-nous, où sommes-nous. Puis là d'un coup comédie musicale Mamma Mia et en même temps Thriller de Michael Jackson, on est là, oula, mais où va-t-on, où va-t-on. Et donc là je suis paumé, c'est-à-dire je ne comprends plus ce qui arrive et je me dis mais où est le foot, c'est-à-dire on m'a promis un film de foot quand même. On m'a promis un film de foot et là je suis dans Mamma Mia. Non mais qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, en fait moi j'ai pas trop compris. Alors j'ai cru comprendre que c'était le Moleito.
Oui c'est ça, c'est
un cocktail.
Voilà. Fameux cocktail.
Bah, c'est un peu ça en vrai. C'est un peu l'idée, oui. Oui oui, style d'humour qui a émergé à Hong Kong fin des années 80, dans les années 90, années 2000, dont Stephen Chow est le principal ambassadeur, je pense. Et qui veut dire, je crois que traduit littéralement, c'est un truc genre non-sensique ou sans queue ni tête, et qui est voilà un humour extrêmement absurde, qui part volontairement dans tous les sens, que moi je trouve, on a discuté avec quelqu'un qui avait comparé ça aux Zaz, je trouve ça pas con du tout comme comparaison. Et aussi il y a pas mal de, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense que le public occidental peut avoir du mal sur certains trucs, c'est qu'il joue aussi pas mal avec la langue. Il y a pas mal de jeux de langue qui du coup sont difficiles à traduire, et je crois que des fois ça se voit un peu quand tu regardes en sous-titré. Alors moi j'ai pas vu la VF, pareil, qu'elle est assez irrésistible, mais forcément ils doivent s'arranger avec ça quoi. Mais oui c'est ça, et c'est aussi là que t'aimes ou tu détestes, c'est que c'est quand même un genre de sous-genre très particulier quoi.
Alors moi c'est vrai, je suis d'accord avec le fait que ça me fait complètement penser au film des As, c'est clair, vraiment je trouve qu'on est dans la même logique d'humour que Top Secret par exemple, mais par contre là où je trouve que, enfin là où Shaolin Soccer me laisse un petit peu plus sur le bord de la route, c'est que en fait comme ces films là, aussi bien comme les films des Monty Python que dans les films des As, entre quelques très bons gags parfois on patauge un peu, c'est un peu long, il y a des longueurs et tout, et là c'est encore pire dans Shaolin Soccer, notamment parce que les gags en fait ils sont très étirés, et en fait t'as déjà compris où ils allaient avant que t'arrives au climax même du gag, et je pense notamment à la scène de guerre qui est hyper marrante quand voilà ils sont en train de se faire laminer sur le terrain, et du coup le héros commence à s'imaginer qu'il est en train de faire le Vietnam et tout, et que donc il prend une mitraillette sur le côté et tout ça. En fait je trouve que c'est une super idée, que c'est très drôle. Mais le truc, c'est qu'en fait, on voit très vite où ça va, et que avant que la scène sorte ses meilleures cartes, j'en suis déjà lassée, en fait, parce que c'est long. Et évidemment, il y a ça sur des scènes même aussi beaucoup moins drôles, avec toutes les blagues grossophobes sur du coup, vent sur l'eau, vent léger.
C'est absolument indéfendable.
Oui, ça voilà, enfin bon, c'est compliqué. Et en même temps, tu vois, je trouve ça bizarre cet équilibre, parce qu'il y a aussi des moments où je trouve que c'est hyper bien pensé, hyper bien chorégraphié, aussi bien dans l'humour que dans les scènes de sport, où je me dis, mais c'est incroyable l'effort qu'est mis dans la chorégraphie de la scène, et même la chorégraphie de la caméra, et à quel point ils réussissent à se dire, bon, ok, alors là, le ballon, il va faire un truc ouf, il va passer de tel endroit, le pied de tel joueur, la tête de tel joueur, etc. Et en fait, le plan rend super bien, et à côté de ça, t'as des espèces d'approximations totales de montage où tu dis, mais pourquoi un tel professionnalisme d'un côté et un tel je m'en foutisme de l'autre. C'est très étrange comme
cocktail. C'est marrant, moi je trouve que le montage est vraiment excellent tout du long. Voilà.
J'adore comment ils jouent avec les contre-champs à chaque fois pour créer un effet comique en te mettant un truc totalement what the fuck en contre-champ auquel tu t'attends pas du tout. Souvent il fait ça avec les gardiens. Quand ils arrêtent un ballon, ils les mettent dans des positions improbables, comme celui qui s'accroche en haut de la cage, et qui reste complètement statique comme ça. Enfin, c'est ce genre de petit effet que je trouve vraiment drôle.
C'est marrant parce que tu parles de la scène de danse là où ils se regardent tous. Et moi, je trouve que cette scène, elle m'aurait pas fait rire si ça marchait pas avec le rythme du montage. Et vraiment le fait d'avoir à chaque fois le gros plan sur leurs yeux, le plan large où tu les repères dans l'espace. En plus, tu vois qu'ils les entourent et tout. Je trouve que c'est vraiment à la seconde quoi, le timing fonctionne vraiment bien, et enfin moi en tout cas ça me fait vraiment beaucoup rire cette scène, parce que justement ça sort tellement de nulle part, et c'est tellement bien timé pour que ça sorte de nulle part justement, que ça, c'est vraiment hyper drôle.
Moi ça fait partie des gros pourquoi que je me pose devant ce film, parce que effectivement pourquoi Thriller à ce moment là parce que quitte à faire une référence à une scène de comédie musicale, enfin ou en tout cas de clip musical ou quoi, vraiment pourquoi ça à ce moment là c'est étrange, mais bon admettons. Et ça m'amène à l'autre point qui me dérange dans ce film, la musique. Pardon, mais vraiment, pourquoi cette espèce d'énorme rebompage de la musique du Roi Lion ? Je ne comprends pas. Vraiment, ce plagiat.
T'as vraiment traumatisé.
Oui, à un moment.
Non, c'est pas qu'un moment. Ah non. Tous les moments, un petit peu, toutes les séquences émotions épiques, machin. Et non, mais c'est pas très grave. Mais c'est juste que c'est vraiment la même musique et que ça déstabilise un peu, quoi. Enfin.
Après, que ce soit Michael Jackson ou le Roi Lion, il y a peut-être une logique derrière. Qui était de nous viser, nous, en tant que public occidental.
Peut-être, c'est vrai.
Oui, voilà, c'est un peu aussi un des trucs amusants avec Shaolin Soccer, qui est que c'est un film un peu hybride, oserait-on dire, un cheval de Troie, c'est-à-dire que c'est un peu l'arme parfaite pour aller chercher le public occidental, ce qu'il a fait, parce que c'est quand même un film qui a dû coûter 10 millions de dollars, enfin équivalent de 10 millions de dollars, et qui en a rapporté 40 millions, et surtout qui est...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Devenu un peu culte dans le monde, hein, c'est pas pour rien si on en parle aujourd'hui, et qui a du coup lancé la carrière de Chow, qui ensuite a enchaîné avec Crazy Kung Fu, qui avec 20 millions, l'équivalent de 20 millions de dollars, a quand même remporté 104 millions de dollars au box-office, ce qui est inimaginable pour un truc hongkongais à une époque où le public était encore en train de découvrir ce cinéma-là, avec Matrix qui avait importé ses codes il y a quelques années, et Tigre Dragon qui avait été le premier vrai succès, également un peu hybride, de Hugh Zapian cette fois-ci, l'année d'avant.
Il y a une ref en plus à Matrix à un moment dans le film qui est assez évidente, ou à Jurassic Park où il faut sauver le soldat Ryan, et même le fait de faire une sorte d'adaptation officieuse en live action d'Olive et Tom, c'est quand même super malin, en plus de rajouter un petit peu des codes à la Dragon Ball, parce que ça c'était des séries d'animation qui s'étaient déjà très bien importées en Europe, notamment en France, où ça faisait déjà une dizaine d'années qu'on consommait ce genre de contenu, on commençait à devenir familier avec les codes de l'animation japonaise, et au final ce film qui les reprend pour gentiment s'en moquer, et en plus, en faisant d'autres parallèles avec du cinéma occidental, c'était vraiment le film parfait, on va dire, pour toucher un public occidental, alors même qu'il utilise un genre qui est purement hongkongais.
Mais tu vois, c'est marrant cet effet hybride, parce que du coup, t'as d'un côté, effectivement, ce qui est fait pour nous toucher en tant que public occidental, et de l'autre, moi, je sens, alors c'est peut-être aussi ma propre fermeture d'esprit, mais le fait que là où je suis en but face au film, c'est aussi par rapport au code que j'ai pas de ce cinéma hongkongais, tu vois, et qui me parle pas, qui me communique pas, et qu'en fait, qui m'interroge et auquel bah, peut-être un jour je serai plus ouverte, je l'espère, mais en tout cas, c'est aussi ça qui me laisse sur le bas-côté. Donc c'est un petit peu bizarre ce mélange d'adresse directe au spectateur occidental et en même temps dans une langue qui, cinématographiquement parlant, je veux dire, qu'il ne parle pas, quoi.
Mais c'est pour ça que je parle d'un cheval de Troie, parce que t'as un peu cette idée de tu mixes des trucs très occidentaux. Qui du coup va parler à un public hyper large et tu le mélanges avec Somoleto, avec des références au Hugh Zapian, avec des références à Bruce Lee, bon là pour le coup c'est aussi connu en Occident, mais tu vois quoi, j'ai l'impression il y a un peu un côté on va introduire un certain public à ce qui rentre dans ce qu'on disait sur la thématique du film, qui est la résurgence de ce que c'est que le vrai cinéma hongkongais dans une industrie mondialisée en fait, et t'as un peu ça, au point d'ailleurs que le Stephen Chow pour les Corées, il a pas engagé n'importe qui, il a pris vraiment un genre de pilier absolu du grand cinéma hongkongais tel qu'on l'adore aujourd'hui, qui s'appelle le Ching Siu Lung, et qui a quand même fait l'enfer en Corée, hein, l'enfer des armes, Zoo, le syndicat du crime 2, The Killer, The Rick Trio, et après Shaolin Soccer, le gars il a enchaîné avec Hero et Le Secret des Poignards Volants, donc vraiment le bingo quoi. Et voilà, là le mec est un génie, et il a sur Shaolin Soccer, il chorégraphe des matchs de foot bizarres avec des. Et c'est marrant, t'as vraiment cette idée de prendre le meilleur de son industrie à lui et d'appeler un public hyper large en espérant que ça va. Appeler au full, et c'est hyper malin autant d'un point de vue économique que artistique, je trouve.
Mais c'est presque un peu dommage, tu vois, parce que tu racontes tout ça sur tout ce qui est la chorégraphie. On sent qu'il y a un vrai travail sur les chorégraphies, sur à plein de niveaux, même si les effets spéciaux sont ratés, tu sens que ça a été pensé pour qu'il y ait des effets spéciaux à cet endroit-là et que il faut les faire en post-prod et que du coup ça rend pas forcément bien, mais au moins ça a été pensé en amont, c'est très réfléchi, et c'est ça qui m'agace un peu dans le film, c'est que tout semble très réfléchi, mais à côté du coup il a tellement réfléchi à ses références, sa chorégraphie, comment je vais placer les effets spéciaux derrière, que le scénario il est juste hyper bateau, et c'est presque paradoxal, je trouve, d'avoir un film aussi, qui a une envie aussi grande de partager toute une culture cinématographique, de reposer sur des codes de narration aussi basiques que le petit club qui va battre le grand méchant club, le petit club des pauvres qui va battre le grand club du capitalisme, quoi. Et c'est un peu bon, ok. Et d'ailleurs, en plus, je comprends pas non plus, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas trop, mais ce personnage quand même de héros qui doit apprendre à jouer au foot, littéralement, alors que pendant tout le début du film, le gars est capable de replacer un frigo au bon endroit avec son pied. Il est capable de jongler avec des œufs. Bon,
non, okay. Pas au début, il apprend à jongler avec des
œufs. C'est vrai qu'au début, il ne sait pas jongler avec des œufs. Mais en tout cas, il sait replacer un frigo avec son pied. Donc, le gars est quand même assez doué. Et il est capable de construire une cage de bambou avec un mec avec un ballon de foot. Donc, je ne comprends pas non plus sa trajectoire. Je trouve que c'est hyper artificiel régulièrement sur ce scénario. Alors que il y avait de la base, quoi. Et quand tu vois tout ce qu'il fait sur la chorégraphie des matchs de foot, le tournoi est un peu rushé, etc. Les matchs vont à la vitesse de la lumière. Mais il y a de l'idée, comme disait Judith, quand tu vois les passes d'un côté, ça va sur la tête d'un mec, ensuite ça tombe sur le ventre d'un gars, ou alors le dribble breakdance, on va dire, entre guillemets, où le gars il dribble, ensuite la balle va sur la tête d'un mec qui va dans la cage, et tu dis waouh, mais ok, il y a du travail, quoi. Et j'ai un peu envie de dire, tout ce travail pour un film aussi bateau scénaristiquement, c'est un peu dommage, quoi.
Après, c'est vrai que la trajectoire du personnage de Stephen Chow est très bateau, mais peut-être parce qu'au fond c'est pas lui véritablement le héros du film, et c'est peut-être plus en fait le personnage féminin qui a lui pour le coup un traitement qui est vachement plus surprenant et inattendu dans une production mainstream, on va dire.
Oui, dans une comédie HK aussi, où les personnages féminins sont en général pas les meilleurs persos. Il suffit de voir le traitement réservé au personnage de Maggie Cheung dans Police Story, un film que j'adore, hein, mais vraiment que j'adule de tout mon être, mais il y a une partie, c'est bien quand tu fermes les yeux quand même un peu, quoi.
Oui, enfin, du coup, là, le personnage féminin, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, il n'a pas. Enfin, là, du coup, je vais défendre un peu le film, mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est la relation qu'elle a avec le héros, où, pour le coup, c'est pas. Même si à la fin, on nous dit qu'a priori, ils se sont sûrement mariés ou en tout cas mis ensemble, c'est pas une histoire d'amour bateau, enfin, en tout cas, spécialement romantique qui se déroule au cours du film, où on sent en fait que le héros a un vrai coup de foudre pour elle, mais un coup de foudre d'admiration et d'amitié. Mmh. Et en fait, tout au long du film, du coup, il va prendre soin d'elle, et il va la mettre en valeur et il va la pousser à croire en elle-même, mais pas du tout dans une sorte de convoitise ni sentimentale ni sexuelle.
Ouais, c'est désintéressé.
C'est hyper rafraîchissant parce que vraiment, il la considère en tant qu'être humain et pas en tant que potentiel partenaire sexuel, tu vois. Et c'est tout con, hein, mais en vrai, c'est ultra rare quand même dans les films. Et ça fait vachement de bien, ouais.
Puis moi, il y a vraiment cette scène dans le film que j'adore parce que je la trouve très forte, c'est le moment où elle revient toute pimpante du salon de beauté, où elle est avec ses nouveaux habits, et on sent qu'elle commence un petit peu à prendre confiance en elle, et d'un coup, il y a les moqueries de tout le groupe d'amis des héros.
Des jambes d'acier.
Voilà, voilà, toutes les moqueries des joueurs qui sont dans l'équipe de jambes d'acier. Et à ce moment-là, on sent bien qu'elle est très gênée. Elle essaie de rigoler un petit peu, d'être dans l'autodérision avec eux, mais on sent que tout ça, ça la gêne. Et même nous, en tant que spectateurs, on n'arrive pas trop à rire devant cette scène parce qu'elle est très ambiguë jusqu'au moment où elle coupe court à la scène et elle dit « Non, mais en fait, tout ça, c'est pas drôle et j'aime pas qu'on se foute de ma gueule. » Et à ce moment-là, il y a quelque chose d'un peu grave et de pesant. Ça dure pas très longtemps, mais ça arrive comme ça, comme sentiment, et tu dis « Ok, donc le film est quand même plus malin et réfléchi, en tout cas au niveau des personnages principaux. » Et même, de toute façon, on en parlait avec ces autres films qu'on a pu voir. C'est vrai que les personnages féminins, j'ai l'impression qu'ils ont quand même une place assez importante dans les scénarios, dans le sens où c'est toujours des personnages dont t'es censé te moquer parce que physiquement ils ressemblent à rien, parce qu'ils sont ridicules, parce qu'ils présentent mal. Et au final, il s'avère que ce sont toujours les personnages qui sont les plus nobles, les plus héroïques, les mieux intentionnés envers les autres personnages et aussi ceux qui finissent par sauver les miches des héros masculins, que ce soit dans Crazy Kung Fu ou dans The God of Kung. Après, c'est les deux seuls autres films de Stephen Chow que j'ai vus, donc si ça se trouve, il y a plein d'autres films qui torpillent complètement cette analyse. Mais j'aime bien ce qui fait des personnages principaux féminins.
Non, mais parce que même dans... moi, il y a un film de lui que j'aime beaucoup qui s'appelle The King of Comedy, qui est assez autobiographique, et du coup, c'est un peu sa vision de l'industrie hongkongaise en tant qu'acteur. Et le pitch, c'est que c'est un mec passionné par... parce que tous ses films avant Shaolin Soccer, c'est toujours des gens hyper sûrs d'eux, qui se font un peu humilier à un moment. Et là, il joue un mec qui est passionné par le métier d'acteur, mais en fait, en gros, il n'arrive jamais à dépasser le stade de figurant parce que quand on lui dit, bah, prends-toi une balle en arrière-plan, il y a cette scène hilarante où il parle pendant 5 minutes en disant, je devrais le faire comme ça, et là, tout d'un coup, dans le même plan, il y a le réalisateur, il fait démarrer, et je lui fais, genre, il se prend une balle et il est mort, tu sais, et c'est tout. Et du coup, il est hyper chiant sur les plateaux, et du coup, personne n'en veut. Et en fait, il se met à donner des cours de comédie à une fille qui bosse dans un hôtel un peu, enfin dans un bar un peu genre de charme, tu sais. Et dit comme ça, ça pue un peu, tu vois. Tu te dis, oula, la relation qui va se créer entre les deux, ça sent un peu mauvais et tout. Et en fait, non, parce que c'est un peu le même type de relation qu'il y a dans Sharon Zucker, c'est-à-dire que, en fait, ils sont vraiment reliés par cette passion-là. Finalement, elle se rend compte que les cours qu'il lui donne, elles lui permettent d'amadouer les mecs riches pour qu'elle se fasse de la thune. Et d'un autre côté, lui, il est hyper content de pouvoir exprimer son art, plus encore que par le fait qu'il va pouvoir la serrer. Et c'est pas le cas, en fait, tu vois. Genre, et le personnage féminin est encore une fois hyper important, et je trouve ça assez rare à ce moment-là, à Hong Kong, etc. C'est cool.
Oui, parce que là, en plus, du coup, on se focus sur la nature de leur relation, mais c'est vrai que l'héroïne, en fait, c'est le seul autre personnage qui est au même niveau quasiment que le héros, en gros, en termes de skills, vraiment, de Shaolin. Et voilà, elle est vraiment aussi forte que lui, juste elle n'a pas forcément la même confiance en elle, mais du coup, ça, c'est hyper intéressant. Puis, mis à part le fait, bon, c'est un peu le seul personnage féminin, mais par contre, parmi les équipes que affrontent les héros, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a une équipe qui a l'air mixte, mais dans laquelle il y a notamment des femmes, et on ne sait pas pourquoi, elles ont des moustaches, mais c'est genre en mode, bah, c'est comme ça, et ce n'est pas un sujet. C'est genre des femmes à moustaches qui jouent au foot dans une équipe mixte, et il n'y a aucun souci. Et
La classe, en plus.
Elles ont grave la classe.
En plus, dans cette scène, c'est trop drôle, parce que justement, elles font des moves de malade par rapport aux autres gars de leur équipe, et tu as le personnage de Stephen Chow qui est là, genre, mais ils sont où les câbles?
Oui, c'est vrai.
Cette réplique m'a fait vraiment rire, parce que bah là tu vois bien un petit peu toute l'autodérision qu'il a par rapport à ce qu'il est en train de faire, et le fait que oui, les effets spéciaux ils sont pas censés être réalistes, donc ça a le droit d'être absurde. T'aurais limite l'autorisation de voir les câbles qui se baladent, même si évidemment il les efface numériquement, mais c'est plutôt malin et bien pensé. Ouais, le fait que ces deux meufs ce soit à aucun moment un sujet et que juste on te balance ça comme ça et tu digères ça, je trouve ça vraiment drôle aussi.
Après, il semblerait que ce soit un petit clin d'œil à la filmo de Stephen Chow, parce qu'une des actrices est jouée par Cecilia Chung. Et elle joue dans The King of Comedy.
Ah, donc, je ne savais pas, tiens, c'est marrant.
J'imagine que c'est un clin d'œil. Mais est-ce qu'on peut juste revenir, alors je suis d'accord avec le personnage féminin a quand même un bel arc et que c'est très travaillé, mais qu'elle retrouve confiance en elle quand même en allant dans un institut de beauté, ce qui est quand même quelque chose d'assez très moderne, disons, hein, vraiment.
Ouais, mais non.
Elle en ressort avec un maquillage horrible, tu vois, c'est pas la Pretty Woman, tu vois. C'est
que
pas...
la scène dont tu parles, ça contrebalance un peu ça, parce que le film, du coup, fait... En fait, il assume qu'il y a des injonctions, entre guillemets, quoi, tu vois.
Oui.
Et que finalement, bah, c'est pas si grave. Et que c'est tant mieux, finalement, si elle s'affirme via ce biais-là. Après, je dis ça.
Non, puis moi, vraiment, c'est quand elle débarque avec le crâne rasé, parce que véritablement, l'intention, c'est de pas montrer ce personnage féminin dans les standards et dans les normes de beauté. Et quand elle dit, oui, bah, je savais pas comment me couper les cheveux, alors je les ai rasés. Je trouve cette réplique absolument géniale, parce que derrière, ça te véhicule un message qui est genre, c'est bon en fait, bats les couilles, on s'en fiche de à quoi on ressemble tant qu'on a confiance en nous et qu'on sait qu'on est compétente. Et en plus, l'absurde de cette réplique, c'est juste irrésistible.
Il y a de l'absurde, et en même temps, après, il se fout quand même bien de sa gueule en lui disant de retourner vers Mars, donc sur Mars. Donc c'est pour ça que parfois je suis un peu en mode, bon, ok, elle a confiance en elle, et en même temps, il lui dit que littéralement, elle ressemble à un extraterrestre, donc... Ouais, je suis pas sûr sur certains niveaux que ça soit vraiment bienveillant à tous les niveaux.
Moi, ça fait partie des moments. À la fois, je trouve ça quand même marrant dans l'idée et bien dans l'idée en fait, mais dans la réalisation, c'est pareil en fait. Ce crâne chauffe, je sais pas comment ils l'ont réalisé. Et je trouve qu'on a du mal à comprendre. Est-ce que c'est du CGI? Est-ce que c'est un machin, enfin un bonnet de bain ou je sais pas quoi. Voilà, mais en fait, ce serait bizarre parce que on voit elle a le crâne beaucoup trop gros, qu'elle s'est de toute évidence pas réellement rasé la tête. Et du coup, cette espèce de rendu final de à la fois genre c'est cool, on veut pas la ridiculiser, et en même temps elle ressemble à, enfin effectivement, un alien ou à rien, je ne sais pas. C'est bon, ça me met un peu mal à l'aise, toujours cette espèce d'ambiguïté.
Oui.
De toute façon, il y a toujours cette ambiguïté dans le film, et je pense que Stephen Chow est lui-même, on parlait des influences occidentales et de d'essayer d'attirer le public occidental vers un nouveau monde, entre guillemets, pour lui au cinéma.
Je sais pas à quel point c'est conscient, tu vois, c'est pas les Wachowski qui délibérément reprennent des éléments du film hongkongais pour dire Kill Bill, tu vois. Je sais pas à quel point lui il a conscientisé le fait d'amener, enfin peut-être, mais
je pense qu'il a un minimum, parce que t'as cette scène là où les deux, donc t'as Tête de Fer, je crois qu'ils appellent son pote, et donc Jambes d'Acier, donc le héros joué par Stephen Shaw, qui sont dans leur bar là et qui commencent à chanter « Je suis tête de fer et moi je suis Jambes d'Acier
». Bah,
c'est la scène la plus gênante du film.
Non, mais non, pas, c'est
en effet, c'est une des meilleures scènes les plus gênantes du film.
La gêne, ça peut être merveilleux. Regarde The Office.
Et à ce moment-là, il y a des mecs qui débarquent pour lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais, machin ?» Et ils lui disent « Ce n'est que le prologue, les scènes de kung-fu arrivent, tu vois. » Et je me dis, il y a, je pense, une sorte de message un peu, enfin, de sous-texte pour le spectateur, en mode « Bon, ok, pour l'instant, c'est un peu, genre, on est obligé de présenter les personnages, c'est un peu long. » Mais promis, le kung-fu arrive et ça va être bien.
Et même d'ailleurs, mais j'ai l'impression que Shao met pas mal en scène la façon dont il a eu l'idée du film lui-même. Parce qu'au début du film, c'est vraiment le gars, il réfléchit, il fait « Comment je pourrais faire une équipe de foot un peu originale ?» Et vraiment, la façon dont il démarche les acteurs, on dirait vraiment qu'il passe un casting en fait, c'est hyper marrant. C'est un peu ça quoi, et c'est très démonstratif dans ce qu'il veut faire, je trouve.
Oui, mais je suis d'accord avec ça moi.
Mais en vrai, après, pour le coup, je trouve que pour les références occidentales, je pense qu'il faut faire gaffe aussi à pas se dire que spécifiquement pour celui-ci, il a voulu appeler le public occidental, etc. Parce que dès ses premiers films en tant que réalisateur, il y a ça. Hein. Enfin, je veux dire, le premier film où il est crédité vraiment à la réalisation, c'est From Bending With Love et c'est une parodie de James Bond. Donc vraiment, il y a toujours eu un peu ça. Mais là, c'est vrai que dans Shaolin Soccer, en plus, avec le foot, etc., c'est plus fort encore, quoi.
Puis je pense qu'aussi, on le ressent encore plus, vu que Stephen Shaw a dit plusieurs fois que son but avec Shaolin Soccer, c'était de toucher le public à l'international, parce qu'il ne pouvait pas se contenter du marché hongkongais. Donc oui, il avait vraiment l'ambition d'aller draguer ailleurs.
Oui, c'est sûr, bah, d'où la... Je trouve que la scène dont tu parlais avec la genre de parodie de Wixia, où elle attrape les trucs et ensuite il danse, elle est assez représentative de ça, où t'as vraiment un mélange entre un truc hyper traditionnel hongkongais et bah thriller, quoi. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, l'acteur qui joue le Bruce Lee, là, qui joue le gardien, donc, en fait, à la base, il a été engagé, parce que lui, il joue dans un groupe de musique, pour chorégraphier cette séquence-là. Et en fait, quand Stephen Chow a vu qu'il ressemblait à Donf, à Bruce Lee, il a fait « Mais on va te faire de toi le gardien, et tu seras Bruce Lee, c'est trop bien !» Et voilà, il a gardé le rôle de Bruce Lee dans une série, et également dans les Hip Man 3 et 4.
Parce que du coup, il fait vraiment un cosplay de Bruce Lee dans le film, il a vraiment le costume et tout.
Ce mec-là, je sais pas s'il l'a travaillé plus que ça pour Shaolin Soccer, et qu'ensuite il l'a... Mais bon, il ressemble à Bruce Lee, il bouge comme Bruce Lee.
Dans le film, il reprend absolument toutes ses petites mimiques, entre ses petits cris, son petit frottement de nez.
Quand il se frotte le nez, c'est tellement jouissif. Voilà. Mais c'est marrant de se dire quand même que c'était 5 ans avant Kill Bill, et s'il y avait déjà ce truc de « on reprend la tenue jaune qui porte que dans un film finalement », tu vois. Donc ça a été iconisé avant que Tarantino le fasse en Occident. Mais du coup, je reprends par rapport à ce que tu disais sur le fait que l'intrigue est hyper classique pour quelque chose qui veut... montrer le cinéma hongkongais, etc. Mais finalement, il ne fait que reprendre une trame archétypale à mort du film de sport et la parodier jusqu'à la moelle, non sans amour. D'ailleurs, je pense que tu sens qu'il aime bien ce genre de film. Mais je veux dire, c'est difficile de pas y voir... Enfin, pour moi, un peu l'archétype absolu du film de sport, tu vois, c'est Rasta Rocket. Et ça ressemble vraiment à Rasta Rocket. C'est-à-dire que t'as l'histoire de rédemption, l'équipe, ils sont nuls au début, mais en fait, ils sont forts quand même, etc., tu vois. Il y a même aussi le côté... on fait un truc totalement différent du sport dans lequel on est, et finalement on est fort là-dedans. Il y a évidemment le côté, le méchant il est fort, mais c'est parce qu'il triche, parce qu'évidemment il est moins vertueux que le héros. Et donc voilà. Déborah, qui est toi qui es méga fan de films de sport en règle générale.
Non, mais en fait ça me fait rire parce que voilà, tu parlais de parodie et voilà, genre de transcender un peu la discipline, mais la réalité a un peu rattrapé la fiction. C'était en 2015, je sais pas si vous êtes au courant, mais. Xi Jinping, en 2015, en gros, il a capté que la Chine, elle était toute pétée au foot. Ça lui a pas trop plu. Du coup, il s'est dit, je veux que la Chine, ce soit une grande nation de foot et tout ça. Du coup, il a motivé, en quelque sorte, l'école Tagu, qui est une des plus grandes écoles de moine Shaoling de Chine, à ouvrir une section foot où le but, c'était véritablement de mêler les techniques de Kung Fu Shaolin au foot. Je vous jure.
Shaolin Soccer en vrai.
Voilà, c'est vraiment Shaolin Soccer en vrai. Ils avaient, je crois, 5 ans pour faire leurs preuves. Depuis, je n'ai pas retrouvé d'article qui en parle. Et quand tu vas sur le site officiel de l'école, clairement, la division, elle n'a plus du tout l'air d'exister. Et même en fouillant dans toutes les photos, j'en ai trouvé une seule où, effectivement, tu vois des petits pichous de 10-12 ans dans leur tenue de Shaolin. Et avec un ballon de foot au pied. Voilà, c'est la seule preuve, la seule existence du truc.
Faut savoir que je l'ai vu sur la page du formulaire d'admission sur le site internet. Hein,
bah, donc, évidemment que t'as essayé de t'inscrire, Mathieu. On sait.
Non, c'est Déborah qui était.
J'ai trouvé ce truc, j'ai fouillé dans mes recherches et je me suis enfoncé
dans l'internet. Elle se tape moi qui regarde les catégories 3 et moi je la vois en train de remplir des formulaires d'admission pour faire du foot Shaolin en Chine. Quoi,
c'est quand même ouf quand tu te dis que de base c'était une blague, genre mettre du kung fu dans du foot, et qu'à la fin ils se sont dit attends. Ça peut vraiment être une idée, parce que évidemment il y avait l'idée de mettre les coups de kung-fu et toute la pratique physique, mais c'était aussi de mettre l'idéologie des arts martiaux dans le foot. C'était aussi ça la motivation, le fait qu'ils aient mis les tenues Shaolin et les mouvements en l'air comme tu vois sur l'affiche. C'est ça qui rend le truc un peu ridicule, mais de base c'était juste reprendre une idéologie de quelque chose qui est très ancestral et traditionnel.
Bah, puis finalement peut-être que c'est la même idée. Dans le narratif un peu de c'est notre culture, voilà, on va l'exporter. Bon, sauf que je pense que dans la Chine, c'est plus autoritaire que le côté un peu melting pot qu'a chez Stephen Chow, où vraiment il n'y a pas de mauvaises et de bonnes influences. Enfin, s'il y a les Américains qui sont méchants, mais je veux dire, les références au cinéma américain, il les assume et il les aime, tu vois, enfin, ça se voit. Il y a vraiment un côté hyper cosmopolite. Je pense pas que ce soit la même chose qui mène...
Non, dans la vraie vie, ça s'est pas passé trop comme ça. Déjà, il y avait que 1500 licenciés. Bon, je trouve ça déjà beaucoup, mais il y a 35 000 élèves à peu près dans l'école, donc c'est vraiment une part infime.
Oui, c'est pas comme s'ils étaient 1,5 milliard.
Ouais, voilà.
Donc, 1500 à côté, c'est pas ouf, quoi.
Tu vas pas aller bien loin avec ça. Et puis surtout, t'avais l'entraîneur qui avait répondu visiblement à l'AFP, qui disait qu'il avait répondu à l'appel de la patrie, mais que quand même sur le terrain, bah
finalement c'est difficile de faire du kung-fu.
Ouais, qu'ils arrivaient pas trop à viser dans les cages, qu'il y avait pas trop de contrôle du ballon, enfin en gros que c'était quand même assez bordélique. Et il y avait un petit de 12 ans qui disait « Oui, bah alors pour l'instant, je sais pas encore mettre des coups de pied de ballon en l'air et tout, mais je vais essayer et puis on va y arriver. »
Oh là là.
En tout cas, c'est amusant le truc avec ce que tu dis de la Chine aujourd'hui, parce que finalement, Shaolin Soccer, c'est un peu une transition. On a parlé, il est un peu au milieu au niveau de la rétrocession, donc forcément, c'était un peu entre deux airs, quoi. Et le fait qu'il fasse autant un appel du pied au blockbuster hollywoodien montre aussi à quel point, à cette période-là, c'est un cinéma qui se dissout un peu dans une culture plus générale. Mais au-delà de ça, même la carrière de Stephen Chow, c'est exactement ça. Enfin, c'est-à-dire qu'il a commencé en tant qu'acteur à méga succès à la fin des années 90. Je crois qu'il a fait genre 40 films en quelques années, c'est incroyable. Et méga star, d'ailleurs. On mesure mal, je pense, en Occident, sa popularité immense à ce moment-là. Et ensuite, il se met à réaliser des films, donc un peu sur le même modèle à chaque fois. Et ensuite, Shaolin Soccer, Crazy Kung Fu, qui s'exporte vraiment beaucoup, beaucoup. Lui, à l'époque, dans des interviews, il dit que si Hollywood l'appelle, il serait pas contre, hein, évidemment, bien sûr. Déjà, parce qu'on va reparler, il a une idée de faire Shaolin Soccer 2, d'ailleurs. Il en parle dans les interviews de l'époque. Et ensuite, comme beaucoup de grands réals hongkongais, dont Tsui Hark, etc., il a fait des gros blockbusters pour la Chine continentale, qui, eux, pour le coup, ont explosé tous les scores. Hein, Journée de South West, The Mermaid, ça a été vraiment des records du box-office chinois. Des trucs énormes, tournés en mandarin, comme Tsui Hark, qui lui aussi avait fait son grand film, la rétrocession avec Time and Tide. Il faut bien manger, je suppose, mais... Faut beaucoup manger, vu les budgets, etc. Mais du coup, ouais, il y a vraiment un côté un peu symbolique avec ce film-là, je trouve, qui est intéressant, quoi.
Du coup, est-ce qu'on peut dire que le spin-off féminin de Shaolin Soccer qui a été annoncé là il y a quelques jours, ce sera l'œuf testamentaire de Stephen Chow ?
On espère surtout que ce sera sur l'équipe de meufs à moustache.
Oh, ce serait trop bien.
Ce serait bien, j'avoue.
Et qu'il y ait toujours zéro explication, genre que ça reste un non-sujet. Bon. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, vu que là, pour l'instant, on a juste fait un dossier sur les meilleurs films de football avec Shaolin Soccer dedans, parce que c'est une évidence.
Absolument. C'est quoi, moi, je ferais bien un dossier à beau. Alors, Shaolin Soccer, on l'a pas encore fait, faudra qu'on le fasse un de ces quatre, mais là, je t'avoue que j'en peux plus. Mais par contre, je serais chaud pour en faire un sur Crazy Kung Fu, que j'ai revu, du coup, que vraiment, j'ai re-adoré encore plus qu'avant. Mais quel film incroyable, merci. Et donc, je ferais bien un petit dossier à beau là-dessus, ouais.
Et est-ce qu'on ferait pas un papier sur cette suite qui s'appelle, qui est pas vraiment une suite, mais qui s'appelle Shaolin Basket.
Ouf. Oh. Oui, alors d'ailleurs, qui n'a rien à voir techniquement avec Shaolin Soccer. Hein. J'avais fait des recherches parce que c'est très du genre de Shaw d'aller produire des trucs en rapport avec ce qu'il a fait. Rappelons Dragon Ball Evolution, bien sûr. Mais non, en fait, c'est un truc taïwanais, je crois. Et j'ai beau chercher, je crois qu'il partage un acteur. Mais au-delà de ça, à mon avis, c'est juste hyper opportuniste d'avoir appelé ça comme ça. Et c'est très nul. Voilà.
Après, sinon, bah, du coup, peut-être qu'on peut en faire un podcast.
Bon, oui.
Ouais, carrément, en vrai. Ça fait hyper longtemps qu'on dit qu'on devrait le faire. C'est l'occasion.
Par contre, du coup, il faudrait que les gens commentent, mettent la meilleure note possible. Donc, voilà.
4 et puis,
pas 5.
Non, 5.
Si, 5.
Et puis nous disent quelle est leur technique de foot préférée dans Shaolin Soccer.
Et nous explique la règle du hors-jeu.
Ah oui. C'est parce que Alex a essayé d'expliquer à Déborah, mais.
Ouais, j'ai toujours pas compris.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.